France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sont tout doux cette semaine. Le département du Doubs est à l'honneur. Et aujourd'hui, on va faire le tour du monde avec les doigts. À Besançon, une manufacture artisanale fabrique des globes terrestres et elle est unique en France. Avant cela, nous célébrons un prix remis à une initiative. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
La Fondation de France nous signale régulièrement des initiatives remarquables partout en France. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'une des lauréates de la bourse Déclic Jeune de la Fondation de France, un concours qui existe depuis 50 ans, qui récompense des bonnes idées portées par des jeunes entre 18 et 30 ans. Bonjour Solène Boubourg.
Bonjour.
Bienvenue dans les carnets. Vous avez été récompensée pour Solar Ceram, qui est une solution de cuisson solaire qui évolue vers la stérilisation médicale sans batterie. On va rentrer dans le détail. Cette innovation est aussi une histoire de famille, puisque vous travaillez avec votre père. Racontez-nous d'abord concrètement comment ça marche, Solar Ceram.
Alors, le concept, il est simple. On a des panneaux photovoltaïques, comme tout le monde connaît, et ces panneaux, ils produisent de l'électricité. L'enjeu quand on produit de l'électricité, c'est qu'il faut la mettre quelque part, il faut la stocker. Et donc ça se fait soit dans le réseau électrique, les personnes en France sont connectées au réseau quand ils ont des panneaux photovoltaïques, et quand on est en réseau, il faut une batterie. Mais du coup, l'enjeu, c'est quand on n'a pas accès au réseau électrique et que la batterie n'est pas adaptée au climat et que la maintenance n'est pas possible et qu'elle tombe en panne, les panneaux photovoltaïques sont inutiles. Donc mon père, il a mis au point une innovation technologique qui permet d'utiliser ces panneaux photovoltaïques sans batterie et sans réseau. Donc en fait, on transforme l'électricité en chaleur. Et cette chaleur-là, on la transmet à une plaque de cuisson. Et dessus, on peut poser soit une casserole pour faire à manger, soit un stérilisateur qui permet de mettre en place le processus de stérilisation dans les hôpitaux hors réseau électrique.
Et physiquement, cet objet Solar Ceram, il ressemble à quoi ?
C'est une plaque de cuisson, c'est rond, c'est vraiment une plaque de cuisson de 20 cm d'épaisseur, vous voyez pas ce qu'il y a dedans, mais c'est ça qui transforme l'énergie, et puis il y a un fil électrique qui est raccordé au panneau photovoltaïque. Donc le panneau, bien sûr, est à l'extérieur, mais la plaque de cuisson est en intérieur.
L'innovation n'est pas extrêmement visible, en l'occurrence.
Non, en fait, c'est à l'intérieur. C'est comment on fait pour passer de l'électricité à la chaleur, sans batterie, sans réseau électrique, sans onduleur, enfin, c'est un peu... voilà, c'est caché sous la plaque, mais voilà. C'est une petite chose qui fait vraiment la différence.
Quelle est la répartition des rôles entre votre père et vous dans cette toute jeune entreprise ?
Alors mon père, c'est l'innovateur, c'est le génie qui a mis au point cette techno. Ça fait plusieurs années qu'il y travaille et je l'ai toujours vu travailler là-dessus et je me suis dit, bon ben, faut que les gens soient au courant.
Alors, ce serait mieux.
Voilà. Et donc du coup, c'est comme ça que je l'ai rejoint sur le projet et que ça fait un an maintenant qu'on essaie de faire en sorte que son système soit utilisé.
La bourse Déclic Jeune propose notamment une dotation financière et un accompagnement de la Fondation de France. Ça va vous permettre, je crois, de déployer un premier prototype. Quel est le projet précisément ?
Alors, on a déjà des prototypes existants, mais ce qu'on veut maintenant, c'est les mettre en œuvre, en utilisation. Donc, en juillet 2026, on sera à Mayotte pour mettre en place dans un des hôpitaux de Lille le système. Donc, la bourse, elle nous permet de pouvoir faire le déplacement et puis aussi de financer la production de ce prototype et la mise en place.
C'est assez étonnant, hein, ce lien entre la cuisson solaire et la stérilisation médicale. Comment est née cette idée ?
En fait, a priori, c'est des sujets très différents, mais en fait, on se rend compte que l'enjeu se pose dans des contextes très similaires, puisque ce qui a vraiment guidé mon père dans la mise au point de cette technologie, c'est comment on fait quand il n'y a plus de bois, quand on n'a plus accès aux énergies fossiles ou qu'elles sont trop chères, et quand le réseau électrique il n'est pas encore suffisamment stable pour pouvoir subvenir aux besoins. Cette situation, elle a lieu dans des zones rurales où à la fois on a besoin d'être autonome en énergie pour cuisiner, mais aussi pour assurer la qualité des soins pour la population.
Vous avez fait des études de sciences humaines, Solène, et vous avez vécu plusieurs années au Groenland. Quel rôle a eu ce parcours dans le projet Solar Ceram ?
Alors, il a eu un rôle sur ma vie, en général.
Sans blague.
Il a changé ma vie. Et puis surtout, entre mes études en sciences humaines et sociales, qui abordent aussi les enjeux politiques, mais aussi mes expériences vécues des changements climatiques et comment ça peut impacter vraiment l'accès à l'énergie, en fait. C'est cette expérience croisée qui m'a donné envie de dédier ma carrière à la transition énergétique. Et donc, du coup, en parallèle, il y avait mon père qui avait cette innovation incroyable, mais que personne ne connaît. Donc, ça fait le bon croisement pour... lancer le projet Solar Ceram.
Comment vous imaginez l'avenir de cette jeune entreprise aujourd'hui ?
L'objectif, c'est que ce système de stérilisation il soit accessible à tous les hôpitaux qui n'ont pas accès à l'électricité. Ça représente 20% en Afrique subsaharienne. Donc ça peut vraiment faire une différence à la fois sur les enjeux de santé publique, mais aussi l'approvisionnement en énergie et l'impact environnemental en fait des solutions existantes. Et puis aussi de développer cette cuisson propre. Aujourd'hui, j'en parle moins parce qu'on n'a pas de système de stockage pour l'instant. On est en train de le développer. Mais quand on aura trouvé ce système de stockage, on pourra assurer la cuisson propre du matin au soir, qu'il fasse beau ou nuit. Et ça pourrait aussi changer la donne sur les enjeux de cuisson propre.
Comment on fait dans un hôpital qui n'est pas raccordé à l'électricité aujourd'hui pour stériliser le matériel médical ?
C'est compliqué. Il y a plusieurs options. La première, c'est d'utiliser des groupes électrogènes. Sauf qu'il y a plusieurs enjeux qui se posent. Le groupe électrogène, ça coûte cher. Il faut aussi payer le diesel pour l'alimenter. Et puis quand il tombe en panne, il faut pouvoir le réparer. Voilà. Donc ça, c'est la première option. Et après, sinon, on peut utiliser des produits chimiques, mais ça n'assure pas une stérilisation totale et donc c'est pas forcément optimal.
J'imagine que les ONG regardent de près votre innovation.
Ouais, on est en discussion avec plusieurs d'entre elles. C'est super engageant parce que il y a de l'intérêt et je pense qu'il y a vraiment un potentiel pour que ce soit utilisé par ces ONG là. Donc on est en discussion. Je peux pas en dire plus pour l'instant, mais
donc le plus gros problème pour l'instant, si j'ai bien compris, c'est l'absence de stockage de chaleur.
C'est ça. Ce problème-là, il se pose pour la cuisson, puisque bien sûr, on veut pouvoir cuisiner le soir si on en a besoin, si on le désire.
Et s'il n'y a pas de soleil ?
Exactement. On ne peut pas pour l'instant. Par contre, dans notre système pour la stérilisation médicale, ce problème de stockage, il est beaucoup moins important, puisqu'on s'adresse à des hôpitaux qui ont un besoin de stérilisation par jour, auquel on est capable de répondre en une journée lorsqu'il y a du soleil. Donc c'est pour ça qu'on commence par la stérilisation, parce qu'aujourd'hui, la solution est utile et peut être utilisée. Et la cuisson propre, c'est pour dans peut-être un an.
Merci beaucoup, Solène Boubourg, lauréate de la bourse Déclic Jeune de la Fondation de France avec ce projet Solar Ceram.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
À vous aussi, merci.
France Inter. Carnet de campagne.
Que fait un géographe qui souhaite devenir artisan ? Il se met à fabriquer des globes terrestres, évidemment. Bon, ça n'est pas si évident que cela en réalité, car la fabrication artisanale de globes terrestres avait presque disparu en France et en Europe. Une entreprise de Besançon s'est lancée il y a 10 ans. C'est la seule manufacture de globes en France aujourd'hui. Bonjour Alain Sauter.
Bonjour.
Vous êtes le créateur des Globes Sauter. Votre siège est situé rue du Cercle à Besançon, ça ne s'invente pas. Et vous étiez en effet enseignant-chercheur en géographie à la Sorbonne avant de lancer cette entreprise. Est-ce que cette envie est venue d'un manque ?
Probablement, il y avait un manque, mais elle m'est tombée dessus, en fait, en vrai. Je préparais des cours pour des étudiants et c'est à ce moment-là que je découvre que plus personne ne fabrique des globes en France de manière artisanale. Donc, je démarre avec beaucoup de curiosité, puis ensuite une forme d'obsession et effectivement, ça comblait un manque de tout mettre des passions ensemble, finalement. La passion de la géographie, du voyage, la passion du travail manuel également. Et quand on est prof de fac, on trouve quand même mieux en travail manuel. Et puis, un retour à quelque chose d'assez artistique, oui.
J'ai découvert en préparant cette émission que le mot adapté n'est pas map monde, hein, mais bien globe terrestre. Une map monde, c'est une carte plane, Alain.
Effectivement, oui, c'est une carte à mettre au mur et ce sont deux hémisphères, généralement le nord et le sud, oui.
Alors, est-ce que vous sauriez dire pourquoi vous aimez tant cet objet, le globe terrestre ? Est-ce que c'est le plaisir de voyager en promenant son doigt sur le globe, justement ?
Alors, ça fait clairement partie du plaisir, en fait. Le globe terrestre d'aujourd'hui, c'est plus du tout l'encyclopédie de l'époque, hein, quand on avait encore les globes à l'école. Et ce qui reste aujourd'hui, comme on a tous pas loin un téléphone, une connexion Internet avec une carte très précise, ce qui reste aujourd'hui au globe, c'est la rêverie, et vous avez raison, c'est le voyage immobile. Et au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'était de renouer avec un savoir-faire qui avait disparu, de le remettre au goût du jour, et puis de pouvoir proposer des globes qui puissent traverser des générations et continuer à faire rêver, oui.
Les globes que vous fabriquez ne sont pas donnés, c'est peu de le dire. Ils sont vendus entre 500 euros et 20 000 euros pour les plus chers. Est-ce un objet de luxe ?
Alors, du fait du tarif, on commence à rentrer effectivement dans les objets de luxe. Les tarifs s'expliquent, comme beaucoup de fois dans l'artisanat d'art, par les heures de travail qu'il y a derrière sur un globe de taille standard, on va dire une trentaine de centimètres. Nous, on a une grosse dizaine d'heures de travail derrière. Et ça, effectivement, ça a un coût, plus des matériaux que l'on va choisir pour avoir la qualité la plus haute possible.
Alors justement, quels matériaux utilisez-vous ?
Alors, des matériaux avec un impact carbone le plus faible possible. En soi, nos globes pourraient être presque compostables, mais en tout cas très durables. On va commencer par une structure en plâtre armé. Ça s'appelle du staff de manière technique, donc du plâtre et des fibres. Ça va nous permettre de mouler une sphère sur laquelle on va venir coller des bandes de papier qui ont une forme effilée. Ça se nomme des fuseaux. On en a 12. 12 papiers sur lesquels on a imprimé notre carte, simplement avec des encres noires, des encres carbone. Et puis ensuite, l'ensemble de la mise en couleur à la aquarelle. Et pour avoir un globe qu'on puisse vraiment utiliser pour faire ce voyage immobile, comme on l'évoquait, plusieurs couches de vernis pour que l'œuvre soit protégée.
Quel serait votre geste préféré dans ce processus ?
Alors, mon geste préféré, ça reste la mise en couleur. C'est un moment qui est extrêmement long, extrêmement fastidieux pour nous, mais en fait, on est condamné presque à prendre le temps et à faire ce tour du monde extrêmement lentement avec nos pinceaux. Et c'est presque une forme de méditation. Et ça, c'est extrêmement agréable.
Il n'y a pas de liberté créative, hein. La mer est toujours bleue.
Alors non, la mer n'est pas forcément bleue, on a plusieurs teintes effectivement pour nos clients. On a bien évidemment du bleu, on a du vert qui est extrêmement à la mode à la Renaissance. On a des couleurs beaucoup plus vives, du turquoise par exemple. Et après, on va s'adapter à la demande de nos clients, que ce soit des particuliers ou des grandes maisons, où parfois les demandes peuvent être vraiment extravagantes.
Quel type de grande maison ?
Alors, comme souvent, malheureusement, dans le domaine du luxe, j'ai pas le droit de citer, mais non. Voilà, mais on est dans le domaine de la mode, on est beaucoup dans le domaine de l'horlogerie, on a un lien très fort avec l'horlogerie. Du simple fait, ça peut paraître étonnant que la Terre tourne, et si la Terre tourne, on peut mesurer l'heure et les aiguilles d'une montre vont tourner.
Vos ateliers Sauterre reçoivent aussi du public, hein, des scolaires en particulier. Est-ce que ce sont des moments importants pour vous ?
Oui, c'est très important. Ça me permet de renouer aussi avec mon passé pas si lointain d'enseignant et surtout de transmettre. En fait, que ce soit la transmission des gestes, la transmission de la valeur de l'artisanat d'art ou simplement de la transmission de géographie. Mais c'est toujours des moments très importants.
Est-ce que vous voulez nous parler du plus beau globe qui est sorti de votre manufacture ? Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué ?
Alors, il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais il y en a un, je crois, qui reste encore tout en haut. C'est un globe qu'on avait pu réaliser pour le château royal d'Amboise, un globe terrestre avec des connaissances donc de la Renaissance. Le château, pardon, n'était pas équipé de globe. Et on a complètement construit ce globe avec les équipes du château. On a été livré. Donc à cette époque-là, on se remet en contexte. C'était François Ier qui habitait le château d'Amboise et qui était voisin de Léonard de Vinci. Donc voilà, pour nous, c'est quand même extrêmement prestigieux. Et pour la petite histoire, on va récidiver puisque le château d'Amboise prépare une exposition sur l'ensemble de ses grands voyages de la Renaissance. Et pour l'occasion, on va refaire un second globe, cette fois-ci un globe céleste.
Et le premier est visible en ce moment au château d'Amboise ?
Alors le premier, il sera officiellement sorti en juin l'année prochaine, juin 2026, pour le lancement de l'exposition. Et pour le moment, il est dans ce qu'on appelle un salon VIP pour accueillir les hôtes de prestige.
Et cette adresse, la rue du Cercle, c'est exprès ?
Alors, la rue du Cercle, c'est une très belle coïncidence. Honnêtement, j'étais un petit peu dans une urgence pour trouver un local. L'histoire était un petit peu compliquée au début. Et si ça avait été la rue du Carré, j'y serais allé aussi. Mais je crois que voilà, très clairement, on est face à ce qu'on appelle un alignement de planètes qui nous va tout à fait. Et voilà, rue du Cercle, on fait nos globes et surtout, on essaye de pas trop tourner en rond.
Les globes Sauterre, c'est à Besançon. Un grand merci, Alain Sauterre.
Merci à vous.
Et bonne journée. Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.